Chers amis de PFC, bonsoir, ici Radio PFC à Romainville. Un vent d'énergie nouveau plane sur cette réunion, beaucoup de personnes qui sont revenues, et puis des informations nouvelles. On fait un petit tour de micro, et puis ensuite on pourra partager.
Bonsoir, c'est Catherine.
Bonsoir, c'est Christine.
Bonsoir, Véronique. Je salue Facilius.
Bonsoir, Mila.
Bonsoir, c'est Juliette.
Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, c'est Antoine.
Bonsoir, c'est Avi. Voilà, alors, beaucoup d'informations ce soir. Pour ma part, la visualisation sur la musique d'Isis et Cobra était un petit peu planante. J'ai senti les bruits de fond comme étant ceux d'un bouillonnement, comme la marmite cosmique de toutes les particules. J'étais flottant dans cette marmite, la marmite vibrante de la vie dans l'univers. Donc ça, c'était assez sympa. Et puis, la méditation de 20 heures était aussi très agréable, et le silence d'un calme assez exceptionnel. Et donc, je sens que dans cette pièce, il y a beaucoup d'énergie ce soir. Peut-être avons-nous des visiteurs invisibles. Bienvenue à vous, si vous voulez prendre le micro. Vous êtes cordialement invités. Et puis, merci à Antoine pour l'interview de Cobra qui a été transcrite en français, qui s'est révélée très, très intéressante. J'ai écouté la moitié cet après-midi. Arrivé au milieu, c'est passé en anglais et la voix de synthèse ne s'y retrouvait plus du tout. C'était plus du tout audible, donc j'ai pas retrouvé encore la transcription française. Mais il me vient juste une partie de cette interview que j'ai notée, où tu parles, Antoine, des 144 000. Personnes qui font partie ou êtres qui font partie de l'ordre de l'étoile, un ordre sur Terre, et si j'ai bien compris, les personnes qui en font partie ne savent pas forcément qu'elles en font partie. La plupart sont des travailleurs de lumière, et à un moment donné, il leur est insufflé qu'ils en font partie, si je me rappelle bien. Mais ce que j'ai relevé, c'est 144 000, ce n'est pas un chiffre anodin dans Prepare for Change. Hein? Est-ce qu'il faudrait que tous les travailleurs de lumière de l'ordre de l'étoile se réveillent, s'activent en même temps? Voilà, c'est une question. Hein, c'est vrai que c'est un nombre qu'on entend pas seulement dans PFC, hein, ce nombre de 144 000 êtres en conscience peuvent contribuer au réveil de l'humanité. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, j'ai dit ce que ça comprenait. Il y en a qui sont conscients, parmi les 144 000, qui font partie de cet ordre-là, et d'autres non.
Oula.
J'ai une info financière, j'ai pensé à toi, Juliette, je me demandais si tu l'avais. Il y a eu un début de panique sur les marchés boursiers en Russie. Il y a deux jours, le rouble a plongé de 10% et sur fond de tensions en Ukraine, enfin, il y a beaucoup d'aspects géopolitiques qui ont fait que la parité entre rouble et dollar, le dollar et l'euro ont battu des records, et le rouble... Alors, ils disent que dans ces cas-là, les gens se réfugient et achètent des dollars, ce qui augmente encore le phénomène. Donc, tout de suite, je me suis dit, ah, c'est pas un début de reset. C'est pas le signal pour un reset, ou je ne sais pas. En tout cas, le rouble se porte pas très bien par rapport aux autres monnaies mondiales. Et ça fait un peu paniquer les bourses russes. Voilà, c'est cette nouvelle. Quelque chose à dire? Chambre tachyonique.
Non, mais on va parler du sujet que Juliette a proposé, je pense.
Juliette, tu veux le micro?
Oui, bonsoir. Alors, en ce qui concerne la partie peut-être plus financière, donc en ce qui concerne la partie financière, non, je n'ai pas vu ce dont Avi parlait à l'instant, mais c'est vrai que, en fait, ce qu'on observe de façon un peu plus macroscopique, c'est qu'il y a énormément d'incohérences en ce moment sur les marchés financiers. Ils sont très volatiles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit... C'est principalement aux États-Unis, l'euro en fait suit. Bon, effectivement, il y a toutes les tensions géopolitiques et puis il y a énormément de scandales financiers qui sont en train de d'ébranler tout le système bancaire. Notamment, l'un des plus importants, c'est ce qu'on appelle la manipulation en fait du taux d'échange interbancaire, ce qu'on appelle le LIBOR. Et ça, c'est une bombe à retardement qui ne va pas tarder à exploser. Notamment sur ma page Facebook, j'ai publié un élément qui concerne une personne en fait qui a travaillé à la banque JP Morgan. Et cette dame, puisque c'est une femme, a finalement choisi de parler du fait qu'il y a eu énormément de manipulations en fait au sein de la banque Morgan, sachant que le CEO de la banque, donc le PDG de la banque JP Morgan, avait versé une somme absolument colossale pour qu'elle se taise il y a quelques années de ça. Donc pendant quelques années, je crois depuis 2008 de mémoire, elle s'est tue. Mais chemin faisant, elle s'est rendue compte que ce n'était plus possible et, entre guillemets, elle est en train de tout déballer en ce moment. Donc c'est vraiment l'ennemi juré de JP Morgan. Mais des choses comme ça, ce n'est pas un cas isolé. Enfin, il se trouve que là, c'est un énorme scandale parce que son silence a été acheté vraiment à coup de... Enfin, la somme est tellement astronomique que j'ai même eu du mal à comprendre le chiffre. On parle de plusieurs milliards de dollars pour acheter son silence. Et en parallèle, il y a énormément de choses du même genre qui surgissent un peu partout. Donc voilà, tout ceci fait que les manipulations et les scandales financiers émergent à toute vitesse et forcément, ça va provoquer à un moment ou à un autre une faillite. C'est de la logique pure. Hein, le système subit vraiment un manque total de confiance maintenant du fait du nombre de falsifications dont il a été l'objet. Voilà, ça c'est la première chose. Sinon, oui, ce que je disais juste avant, peut-être qu'on démarre l'enregistrement, c'est qu'on a vu passer un message, toujours dans le même média, d'Ivan Cronicle, qui parle en fait d'un plan pour accompagner l'événement. Et ce plan donc, a été rédigé par une personne dont le pseudo est Nova Biscotti. Donc c'est un pseudo, c'est une personne dont l'identité sera révélée plus tard, j'imagine au moment de l'événement. Et donc cette personne a travaillé sur un plan qui vise faire en sorte que la sécurité et le bien-être de la population soient assurés. Alors ce message est en anglais sur The Ivan Cronicle. Il y a déjà, dont je voudrais d'ailleurs saluer au passage, une personne qui s'appelle T'occupe-pas qui nous a très gentiment préparé déjà une traduction. Et je pense que c'est important d'avoir rapidement une traduction vraiment opérationnelle et diffusable à l'ensemble des membres de PFC, parce qu'il va y avoir, suite à ce message, je pense, des initiatives qu'on peut d'ores et déjà préparer. Parce que vous le verrez, ce message est très détaillé, mais en synthèse, de ce que j'en ai compris, en fait, c'est exactement comme les méditations qui crée l'événement. C'est-à-dire, si on ne médite pas, si on n'élève pas notre fréquence, l'événement il se produira à la lorsque les poules auront des dents. Hein. Donc en fait, on sent maintenant que les choses s'accélèrent parce qu'il y a vraiment une prise de conscience sur l'impact de nos pensées, sur l'impact des méditations, sur l'impact de nos fréquences sur le monde physique. Et bien là, c'est la même chose. Quand l'événement va se produire, c'est-à-dire que la manière dont ça va se passer ne dépendra que de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à attendre de gouvernance globale et pour cause, puisqu'on est en train de démonter la gouvernance globale qui a réduit en esclavage toutes les populations du monde. Donc il n'y aura pas de gouvernance globale. En revanche, on peut très bien imaginer des organisations locales qui fonctionnent de façon collaborative entre elles, de façon à assurer une transition harmonieuse. Voilà, mais tout ça, ça reste à faire. Et je voudrais faire le lien avec un troisième élément qui me paraît important, c'est qu'on a été informé qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour l'événement qui démarre le 15 décembre, qui s'achève le 15 mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'événement a de fortes chances maintenant de se préparer, de se déclencher à court terme, parce que lorsqu'on parle de 15 décembre, c'est demain, hein, il nous reste que quelques semaines. Alors ça peut être plus tard, puisque ça s'achève au 15 mars. Le point d'inflexion est au 15 janvier. Donc la probabilité à laquelle il se déclenche, c'est environ autour du 15 janvier. Mais en tout état de cause, ça ne nous laisse pas énormément de temps. C'est-à-dire si on fait un rétro-planning, mettons que une hypothèse, ça se déclenche vers mi-janvier, fin janvier, ça nous laisse un petit peu de temps pour préparer les choses, mais il reste à peu près 8 semaines. Et je pense qu'il est important que tout le monde prenne conscience maintenant qu'on est en train d'arriver donc à l'événement et qu'il va falloir être attentif à le préparer. Voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. On va traduire tous ensemble et on va ensuite identifier dans ce document quels sont les points prioritaires qu'on peut d'ores et déjà préparer maintenant et visualiser donc pratiquement comment se passera l'événement. Voilà.
Oui, moi c'est de plus en plus clair de ce que je vois que l'événement va venir et personne ne va venir nous dire fais ci, fais ça. Je ne sais pas vraiment si on va nous lâcher des sacs de nourriture et de vivres. Ce sera à nous de vivre notre vie, quoi. Là, je suis en train d'écrire un livre, d'entretien avec un. Ça fait un moment que j'en parle toutes les semaines de quelqu'un qui a été contacté par des gens à Agartha, à Taipei, en Asie. Il a eu un contact pendant 4 ans régulier et je ne vais pas tout raconter toute l'histoire là, mais parce que ça prendra des heures. Mais un exemple frappant, c'est qu'un de ses principaux contacts, qui est né sur la surface, à 7 ans, il a été contacté par certains Agartiens qui ont demandé à ses parents s'ils pouvaient faire un entraînement pour. Donc c'est un entraînement spirituel et physique pour qu'il soit plus éveillé pour pouvoir coopérer avec Agartha dans certains domaines. Donc de 7 à 24 ans, il a fait cet entraînement-là. Et ensuite, il descendait et il remontait. Donc il allait chez Agartha, chez la résistance, et ensuite il allait voir des représentants de la Kabbale. Il faisait passer des messages, c'est un diplomate, il appelait ça. Parce que comme il y a une situation d'otage ici, il faut imaginer comme dans une banque où la Kabbale nous a pris en otage à l'intérieur de la banque, et c'est pour ça que la Confédération Agartha ne peut pas rentrer comme ça parce qu'ils ont, ils ont un pistolet avec le doigt sur la détente. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps en grande partie mais ce qui me frappe, c'est que il m'expliquait clairement que même ce diplomate-là, donc qui a suivi un entraînement pendant longtemps, mais où il a dû quand même, il y a personne qui vient le matin vous réveiller, vous dire allez au boulot. Enfin, la lumière ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas d'ordre qui sont donnés. Il faut que chacun suive sa propre guidance. Donc une fois après 24 ans qu'il travaillait, qu'il allait négocier donc des choses importantes avec la Kabbale et tout ça, mais il faisait ça de sa propre initiative. Il descendait, il recevait certains messages, mais il n'y avait pas d'ordre qui lui était donné. Et là, on parle d'une situation encore plus délicate que ce qu'il y aura après l'événement. Donc, il y aura sûrement certains contacts de la résistance, de la fraternité ésotérique, de plein de groupes de lumière qui vont contacter certains individus qui sont éveillés et qui paraissent assez stables pour pouvoir faire toutes sortes de choses, mais ils ne vont pas nous dire quoi faire. Ce sera vraiment... les gens qui vont contacter, c'est des gens qui peuvent prendre des initiatives. Ça fait un moment que ça fait un an à peu près que je vous connais ici à peu près. Vous avez tous des talents qui peuvent être utilisés, quoi. Que ce soit financier, artistique, dans les médias, dans toutes sortes de choses. On a tous des talents qui sont là pour être utilisés et c'est à chacun pour soi-même de le développer et de voilà, le but, c'est qu'on soit libéré, c'est qu'on soit des êtres souverains, quoi. C'est pas qu'on soit sous les ordres d'un nouveau chef, quoi. Donc, voilà, l'organisation, apparemment, de ce qu'il disait, ce sera local, en tout cas au début, il y aura beaucoup de gens qui vont avoir un beaucoup d'émotions qui vont se relâcher. Déjà ça a commencé, mais alors ça va aller de plus en plus. On voit dans Paris, il y a énormément d'émotions et de choses qui sont réprimées, de colère et de peur. Il y en a vraiment des quantités. De temps en temps, on voit que ça explose. La gare du Nord, là, je ne sais plus quelle année c'était, mais... donc il y aura moins de pression éthérique. Ce sera plus facile de se libérer de certaines émotions, en tout cas de les exprimer, de les transmuter. Mais on ne peut pas prédire, enfin ça dépendra du libre arbitre de chacun aussi et de la capacité de chacun à intégrer les changements. Donc il faudra, c'est bien d'avoir un réseau où on peut s'entraider. C'est pas la peine que ce soit des énormes groupes, mais en tout cas qu'il y ait un petit groupe qui commence petit et vous pouviez vous organiser, vous entraider, quels que soient les besoins qu'il peut y avoir. Et puis ensuite, ça peut s'expandre, mais le but, c'est pas qu'il y ait un groupe, par exemple le groupe ici, qui devienne à la charge de Paris. Enfin, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que chacun va devoir s'organiser localement avec ses voisins. Voilà, il y a plein de solutions qui sont là. Mais au final, bon... Il y aura aussi des énormes corporations, de l'argent qui va être libéré, chacun va recevoir des sommes d'argent et tout ça, mais ensuite ce sera de l'argent papier ou or ou argent. Il faudra quand même faire des choses pour traduire ça en argent, en nourriture, en énergie, en logement, etc. Il va y avoir de l'aide, il va y avoir des nouvelles technologies, mais tout va être beaucoup plus facile et on va tous être très heureux de le faire. Et puis, il y aura peut-être des plans où les gens seront invités à des billets gratuits pour l'Irak pour aller reconstruire. Toutes sortes de plans qui vont être mis en place, bien sûr. On ne va pas être tout seul, quoi. Mais il faudra participer, quoi. Enfin, encore une fois, personne ne va vous forcer, mais il faudra bien nettoyer, il faudra bien manger, il faudra bien... Donc voilà, ce qui peut vraiment être utile, il y aura beaucoup de gens qui vont tomber de très haut, et il y en aura quelques-uns qui tomberont de moins haut, et qui seront moins étourdis, quoi. Ils peuvent aider les autres. C'est juste pour finir sur ce que tu disais au début sur l'ordre de l'étoile. C'est une famille d'âmes, c'est un mandala. Donc, si vous imaginez un mandala, c'est, les familles d'âmes sont organisées comme ça. Au vu de la situation avec les otages, disons qu'il y a plein d'écoles de mystère qui doivent être très cachées parce que sinon ils se feraient flinguer. Il y a les maîtres ascensionnés qui sont hors du voile, qui ne peuvent pas rentrer à cause de la technologie du voile. C'est pour ça que c'est l'ordre de l'étoile qui, depuis des milliers d'années, c'est eux qui ancrent tous les changements. Donc ils sont guidés, soit télépathiquement, soit des fois avec un certain... Ils peuvent être contactés. On les a retrouvés très souvent. Par exemple, ils peuvent être incarnés en tant que druide, en tant que chaman, en tant que révolutionnaire, en tant que toutes sortes de positions où c'est eux qui vont un peu sur la ligne de front, puisque la fraternité ésotérique, la fraternité de l'étoile, ils peuvent pas être sur le front comme ça. Après, je ne sais pas qui en fait partie ou pas. Au final, c'est pas. C'est important, mais c'est pas parce qu'on n'en est pas qu'on ne peut pas participer. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie dans le sens où les 144 000 qui méditent, ils peuvent faire partie de ça ou pas. Ouais, c'est.
Merci. Alors moi, quand même, je note une certaine accélération dans les nouvelles parce que Cobra initie une nouvelle information, une nouvelle fenêtre d'opportunité pour l'événement qui démarre le 15 décembre, assez proche du solstice d'hiver. On se rappelle du 21 décembre 2012, à quel point... Les travailleurs de lumière étaient actifs, étaient présents pour ce solstice. Et traditionnellement, les solstices sont des points de passage d'énergie assez puissants. Et puis, pratiquement au même moment, Cobra demande à Nova Biscotti de diffuser ce plan pour maintenir la sécurité et le bien-être de la population lors de la réinitialisation des finances et des arrestations massives. Ça fait quand même une synchronicité, hein, comme si on disait soyez prêts. Hein. Bon, alors, pas d'attentisme, pas de focalisation sur des dates, parce que qui dit déception, qui dit frustration invoquer forcément des attentes. Donc si on ne veut pas entrer dans ce système, on s'y attend, mais on ne l'attend pas. Hein, on s'y attend. Chaque jour, ça peut être le cas. Donc chaque jour, on peut se dire, est-ce que je suis prêt? C'est tout. Tout simplement. Donc ce document, il est intéressant. Il fait 8 pages. Il y a déjà une ébauche de traduction française. Et ce sera... intéressant quand ça sera finalisé d'en discuter point par point. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé dans ces réunions de l'événement comme si c'était un facteur su, connu, et de notre état de préparation et de ce qu'on peut faire au moment où ça arrive. Peut-être c'est à remettre au goût du jour, hein, cette situation là. Alors, parallèlement, le site meetup.com arrête ses services pour Prepare for Change et pour toutes les sous-communautés de Meetup, qui n'est peut-être pas étranger au fait que 3 personnes qui sont ici ce soir n'ont pas réussi à s'inscrire pour la réunion. Donc, ça s'arrête au 1er décembre. C'est donc important de prévoir une suite pour qu'on sache qui vient, qui ne vient pas aux réunions, ce qui qui était un peu dommage, c'est que Meetup représentait une vitrine visible dans le monde entier et que n'importe quoi d'autre qu'on fera, ce sera plus local et ce sera moins une vitrine de où ça se réunit dans le monde. C'est intéressant de savoir au niveau planétaire où il y a des réunions, où les gens sont actifs, parce que ça fait partie de la motivation qu'on a à le faire. Alors les idées sont les bienvenues, hein, s'il y a des choses... pourquoi pas lancer une application planétaire, la communiquer au groupe Prepare for Change en disant, à partir de maintenant, on s'inscrit là. Hein, en disant, telle ville, tel jour, telle date, telle heure, et inscrivez vos noms. Mais le plus important pour moi, c'est que ça concentre toutes les villes qui font des réunions, parce que ça nous maintient connectés les uns aux autres. J'avais pensé un instant à l'application Doodle. Doodle, c'est une application gratuite, un logiciel sur Internet, qui permet de gérer des réunions. Je lance, par exemple, le 16 novembre, je mets mon nom, et puis n'importe qui a l'adresse de cette organisation se connecte, inscrit son nom, et puis les autres le voient. Les autres le voient aussi, ceux qui ont le lien. Donc c'est quand même local, parce qu'il faut avoir le lien. Alors à voir comment est-ce que on pourrait faire notre meet-up à nous, quoi, notre meet-up qui reflète l'activité dans le monde, l'activité de PFC dans le monde.
Est-ce qu'on peut revenir au sujet d'avant ? Oui, donc il faudrait revenir au sujet précédent de « Sommes-nous prêts ?» parce que pour moi, ce n'est pas clos. Je pense qu'on pourrait se poser la question « Sommes-nous prêts ?» Eh bien, c'est quoi être prêt ? Peut-être on pourrait faire un récapitulatif de qu'est-ce que c'est être prêt. Et je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, si c'est clair pour tout le monde. Donc, je peux commencer et dire ce qui me vient. Premièrement, c'est être conscient de ce qui se passe. Pêle-mêle dans le désordre, comme ça me revient, avoir un stock de nourriture, avoir de l'argent, avoir toujours la moitié de l'essence dans son réservoir, avoir la lettre CLB, c'est comment, la community... voilà, la lettre aux dirigeants locaux, voilà. Et le nouveau PDF de Nova Biscotti, qu'on va traduire en français. Ça, c'est les premières choses. Mais ça me paraît pas suffisant. Donc, il y en a d'autres, peut-être. Nova Biscotti propose de rencontrer tous les dirigeants qu'on connaît qui ont des postes à responsabilité dans les services publics, etc. Moi, j'en connais pas. Donc, j'ai réfléchi comme ça. Je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je sais pas. J'aimerais bien qu'on parle de ça, quoi. J'en ai parlé à une amie et elle m'a dit... Ah ouais, d'accord. Non, mais j'ai pas envie d'aller chercher à comprendre et d'aller fouiller tout ça. Moi, le jour où ça se passe, je viendrai à côté de toi. Alors, je me suis dit, d'accord, si tout le monde fait comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Surtout que comme moi, je ne sais pas exactement ce que je ferai précisément. Donc voilà, je suppose que d'autres peuvent avoir cette réaction. Donc... voilà, de la première à la troisième heure, là, comme le découpe Nova Biscotti, qu'est-ce que vous faites, vous, chacun d'entre vous, voilà, et puis ensuite, comment on fait? Qui fait quoi?
C'est court, c'est vite. Enfin, une idée, par exemple, c'est, on peut faire de l'hydroponique chez soi. On peut faire de l'hydroponique, des espèces de faire pousser à manger en étage. Ouais, voilà. On peut faire même si c'est un petit carré, on peut faire pousser certains légumes, certaines herbes, qui peuvent s'avérer très utiles. Parce que à l'heure actuelle, la plupart de encore en France, c'est un peu moins, mais la plupart de l'industrie de la nourriture, c'est la cabale qui l'organise. Donc c'est la cabale qui possède la plupart des compagnies agroalimentaires qui acheminent la nourriture, qui l'emballe, parce qu'ils ont acheté ça pour pouvoir mettre du poison dedans, quoi. Mais la nourriture, je pense que ce sera une chose à laquelle on peut penser. Je ne sais pas, peut-être sur certains toits, si on y a accès, on peut. Je sais que j'ai déjà vu des gens à Londres qui faisaient ça. Par exemple, de l'alfalfa, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, qui pousse rapidement, et puis des trucs comme ça qui peuvent être mis en place et qui peuvent beaucoup nous aider. L'acheminement du gaz aussi, on ne sait pas si tu vois comment on va se faire à manger. Peut-être comment on filtre l'eau. Est-ce qu'ils vont continuer, enfin, ça se trouve, ils vont continuer, tout ira très bien, on ne sait pas. Parce qu'on ne peut pas prédire, ça dépend du libre arbitre de chacun. Mais ouais.
Oui, je te remercie pour ces idées. En fait, ma question, c'était carrément le premier jour, les premières heures. Voilà, qu'est-ce qu'on fait tout de suite?
Alors, c'est Juliette à nouveau. En ce qui concerne l'événement, quand on regarde le document, mais comme je vous le disais, j'ai pas eu le temps, pas plus que les personnes qui sont ici ce soir, de nous plonger dans les détails, mais je pense qu'il faut quand même être très pragmatique et se préparer à une éventualité où l'événement, ça va être tout à coup les transactions financières qui ne fonctionnent plus, votre carte bleue qui ne fonctionne plus, le paiement par cash, le paiement par monnaie en métaux précieux sera sans doute possible, en chèque également. Mais d'un point de vue purement pratique, et je pense en particulier aux villes, parce que dans les campagnes, pour l'avoir vérifié encore récemment, dans les campagnes, il y a une chaîne d'approvisionnement de la nourriture qui peut être assez simple. Tout le monde aujourd'hui à son potager, et il y a un esprit de solidarité. Globalement, sans être trop idéaliste non plus, mais enfin, il y a quand même un esprit de solidarité dans les campagnes qui fonctionne peut-être un petit peu mieux que dans les villes, tout simplement parce qu'il y a un rapport à la nature, à la terre, qui est quand même un peu plus fort. Alors, dans les villes, c'est un peu plus compliqué, de mon point de vue. C'est un peu plus compliqué parce que la chaîne d'approvisionnement, parce que pour l'instant, on est encore obligé de composer avec ça, même si bien sûr il faudrait passer le plus rapidement possible à des méthodes où on peut être autonome même dans les villes d'un point de vue nourriture. Mais imaginons que ça se passe par exemple dans 2 mois, je ne suis pas sûre que la petite mamie dans le 4e en haut du 6e étage elle puisse faire pousser ses tomates entre temps et être autonome d'un point de vue nourriture. Bon, alors comment on fait? Comment on fait? Je pense qu'il faut simplement, et c'est notre job, entre guillemets, commencer à préparer vraiment les personnes, à les sensibiliser, même si aujourd'hui elles sont très sceptiques, il faut quand même être un petit peu, passez-moi l'expression, bouché, pour ne pas se rendre compte que socialement et économiquement, ça se passe quand même de moins en moins bien. Et il faut les préparer sans verser dans la panique, mais simplement commencer à les préparer à l'idée que faire un peu de stock de nourriture sèche, la nourriture sèche, c'est quoi? C'est des choses qui se gardent sans aucun problème, de façon à ce que les gens ne soient pas pris au dépourvu quand la bise sera venue, concrètement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux que peut-être que les gens stockent un petit peu trop et puissent partager avec leurs voisins, plutôt que rien du tout. Alors, il nous reste quand même 2 mois. Et donc, il est important de sensibiliser les personnes, j'irais toutes les personnes qu'on connaît. Donc, alors ça ne veut pas dire faire une sensibilisation en mode panique, mais les événements jouent quand même, les événements sont de plus en plus, je parle des événements, par exemple les manifestations, la crise, etc., on voit bien que la perspective d'un certain chaos financier, elle est de moins en moins improbable. Même les personnes qui ne sont pas du tout au courant de Prepare for Change, qui ne sont pas du tout au courant du domaine spirituel, je dirais que c'est juste le bon sens paysan qui parle. C'est-à-dire que le système, il peut s'arrêter maintenant. Il peut s'arrêter. Donc s'il s'arrête, on fait comment ? Ben, il faut simplement être un petit peu prévoyant. Là aussi, c'est du bon sens paysan. Donc autant dans les campagnes, les gens, bon, être prévoyant, déjà, c'est leur nature profonde. Il y en a beaucoup qui sont déjà autonomes. En revanche, dans les villes, ce n'est pas le cas. Donc dans les villes, et je m'adresse donc particulièrement aux membres de PFC qui sont dans les villes, il faut vraiment faire un travail de sensibilisation pour que les gens commencent à prévoir un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre, bien au contraire, mais simplement qu'ils se prévoient à l'éventualité d'un changement de système financier qui leur sera favorable. Mais le temps que ça change, eh bien, il faut simplement être un peu organisé. Alors comme le disait Antoine, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, hein, c'est-à-dire si le courant électrique... Si les centrales ne fonctionnent pas et qu'on n'a pas d'EDF, bon ben, je ne sais pas trop comment on fera. Là, on n'a pas les réponses à ces questions. Mais enfin, on peut imaginer quand même, et pour avoir évolué pendant pas mal d'années au sein de sociétés qui font ce qu'on appelle des DRP, enfin des plans de ce qu'on appelle Disaster Recovery Plan, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ne sont pas complètement folles et elles savent très bien que s'il y a une catastrophe, par exemple bombe nucléaire, etc., qui tombe sur leur système informatique, ils savent très bien reprendre et redémarrer les choses. Donc, si elles ont imaginé ce genre de choses, on peut imaginer qu'elles ont prévu aussi, en cas de crise financière mondiale, elles ont prévu un minimum de backup pour continuer à fonctionner. Bon, ça, ce sont des suppositions de ma part, mais elles ne sont pas, je pense, aberrantes, parce qu'il y a quand même des gens aussi qui ont du bon sens dans les grandes entreprises, même si les grandes entreprises, leur vocation n'est pas forcément, on le sait, de faire le bien, mais il y a quand même des gens qui sont intelligents dans ces entreprises et qui savent parer à une catastrophe. Voilà, donc je pense qu'il faut être raisonnablement confiant, raisonnablement, je dirais, optimiste sur le fait qu'il y ait ce qu'on appelle une continuité de service, notamment, je pense, à EDF, etc., le gaz. En revanche, c'est vrai que les approvisionnements purement logistiques dans les villes, ça peut poser problème. Parce que les gens... Mais ça, c'est pas la faute des entreprises qui approvisionnent, c'est la faute. C'est le comportement humain, hein, qui va faire la différence. Alors, si les gens se ruent dans les magasins en pensant qu'il s'agit d'une guerre et qu'ils emportent tous les rayons, fatalement, les entreprises ont beau être prévoyantes, il n'y aura plus rien dans les rayons. Donc il faut simplement que les gens s'autogèrent, comprennent qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe, bien au contraire, d'où notre devoir d'information, et qu'il y ait une capacité donc, à informer les gens que c'est un événement positif, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il n'y a pas lieu de dévaliser les magasins, que tout va bien se passer, et qu'il faut en laisser pour les autres. À partir du moment où on gérera cette logique d'approvisionnement, de logistique, je ne pense pas qu'il y aura de difficultés majeures, personnellement. Voilà, mais c'est vraiment lié au comportement humain.
Voilà, et puis dans le texte de Nova Biscotti que j'ai un petit peu lu cet après-midi, il donne une idée assez intéressante pour parler aux gens de l'événement en faisant semblant de ne pas en parler. Au tout début, il dit « Qu'est-ce que tu ferais, toi, si par hasard, dans l'hypothèse où tout s'arrête, tout le fonctionnement de la société s'arrête, sans évoquer quelque chose de concret ?» C'est juste une question comme ça. Et puis, au moment de l'événement, je rappelle cette personne, et puis je lui dis, tu sais, ce dont je t'ai parlé en tant qu'hypothèse, c'est là. Tu peux regarder les infos, tu peux regarder par la fenêtre, et puis tu peux voir que c'est là. Donc, c'est intéressant parce que ça met une petite brique, une petite graine de conscience. Et une fois que tu reviens et que tu dis « je t'en ai parlé », tu es celui qui savait que c'était en préparation. Donc ça donne une certaine crédibilité. Parmi les choses qui me semblent intéressantes de préparer, moi j'ai le gaz de ville, mais on peut aussi supposer qu'il puisse être coupé. Donc avoir en précaution une grosse bouteille de gaz, une bonbonne de gaz ou des petites cartouches. Parce que ce qu'il y aura peut-être besoin de faire, ce sera des lieux de solidarité où on met une grosse marmite, chacun vient avec ce qu'il a dans son frigo, une tomate, un oignon, on met de l'eau, puis ça fait une soupe pour tout le monde. Donc prévoir un endroit de solidarité où ceux qui n'ont pas à manger puissent venir pour se restaurer. Et puis il pose aussi, Nova Biscotti, deux questions qui sont parmi les plus urgentes, et ça a retenu mon attention. Les deux questions, c'est qui a besoin d'aide de toute urgence? Donc les questions qu'on peut se poser nous, hein, vers quoi orienter nos forces? Et puis quelles sont les ressources que nous avons et à quoi devons-nous nous attaquer afin de remédier à certains problèmes? Voilà. Il parlait même d'appeler les sapeurs-pompiers parce que le jour de l'événement, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir des choses. Et puis en dire un mot aussi, bien que ce soit dans les forces de sécurité, alors elles risquent d'être quand même averties ou par les militaires positifs ou les forces de police positives. Je pensais aussi que ceux qui ont 1000 ou 2000 euros de côté, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais peut-être acheter des pièces d'or ou d'argent, sachant qu'une pièce d'argent, ça ne coûte pas très très cher. Une pièce d'or, c'est un peu plus cher, c'est environ 180 euros, un petit Napoléon, mais une pièce d'argent, c'est une vingtaine d'euros. Disons que si l'argent normal s'épuise, qu'il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de liquide, vous aurez votre carnet de chèques dans la mesure où les commerçants acceptent les chèques pendant cette période. Et puis, si je sais que chaque pièce d'argent que j'ai, elle vaut 20 euros, je peux faire mes courses avec. Hein. Donc, c'est de l'argent métal, hein, métal précieux. Ça peut être intéressant d'avoir quelques petites pièces de côté parce que, de toute manière, ça conserve sa valeur. Hein. Au pire, on peut les revendre, mais en cas de besoin, s'il n'y a plus d'espèces, ça pourra dépanner un petit peu. Voilà. Du gaz. Moi, je pensais aussi à tout ce qui est lampe à manivelle, tout ce qui n'a pas besoin de piles. Moi, j'ai une radio qui fonctionne à manivelle. Pour l'instant, elle ne sert à rien, mais peut-être qu'elle servira à quelque chose. Parce que les organismes comme France Info, les chaînes nationales de télé, ils ont sûrement des générateurs qui font que la radio continuera de fonctionner. France Inter, même sans électricité, peut émettre parce que c'est la chaîne qui diffuse à l'échelle nationale pour l'urgence. Hein, c'est celle qui est réquisitionnée aussi pour ça. Donc avec une radio comme ça, on peut, même sans électricité, avoir des nouvelles. Hein, avoir des nouvelles du monde. Avoir
sur un transistor rapide.
Ou à manivelle.
Ou à manivelle.
Voilà. Alors la manivelle, l'intérêt, c'est que, comme les hamsters, hein, tant que tu fais tourner, ça marche. Hein, jusqu'à ce que tu te fatigues. Y a pas besoin, c'est toi qui fabriques l'électricité. Voilà. Et puis, un petit peu de réserve d'eau. Moi, j'ai de l'eau minérale. J'ai au moins 3 ou 4 bouteilles de 5 litres. Mon eau minérale purifiée, il y a 10 litres en permanence. Même en cas de coupure d'eau, ça coule. Parce que c'est un système de ressort. Donc, ça fait une trentaine de litres d'eau. Quand l'eau ne coule plus au robinet, c'est vraiment un problème. Hein. Moi, j'ai eu une fois 4 jours... sans eau, parce qu'il y avait, une grosse fuite qui n'a pas pu être réparée. j'ai vu à quel point c'était précieux et que quand ça coupe plus au robinet, c'est vraiment, ça fait bizarre, hein, parce que pour tous les gestes de la vie quotidienne, j'ai les mains sales, qu'est-ce que je fais, hein, je vais aux toilettes, qu'est-ce que je fais, voilà, c'est des choses. Donc avoir de l'eau, un petit peu de réserve d'eau, c'est important. Bien sûr, on ne sombre pas dans le catastrophisme, hein, c'est juste de la vigilance, de la conscience, hein, c'est pas du négatif, hein, tout ça.
Moi, je pense que probablement, il n'y aura pas de coupure d'eau et d'électricité. Je pense que je peux pas être sûr, mais disons que la résistance et d'autres groupes de lumière, ça fait depuis, je sais plus, début des années 2000, qui s'infiltrent dans toutes les structures EDF, énergie, gouvernement, etc. Donc, dans toutes les grandes structures importantes, on va retrouver des agents de la résistance, quelque part, qui font semblant de rien, mais qui peuvent, au bon moment, appuyer sur le bouton et puis s'assurer que les choses partent pas en catastrophe. Donc, oui, il y aura de l'aide, il y aura beaucoup d'aide, surtout au niveau de ce genre de choses, parce qu'ils savent que c'est aussi pour ça qu'ils prennent leur temps, parce qu'ils savent que s'ils lancent le truc et qu'il y a des coupures d'eau avec toutes les émotions et les choses que les gens ont, ça peut très mal tourner. Et ensuite, voilà, c'est pas du tout une timeline qu'on veut voir, parce que ensuite, s'ils se rebellent contre les forces de la lumière, ben les forces de la lumière ne vont pas se battre contre eux, donc on se retrouve avec une situation ingérable. Donc ils prennent leur temps pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Après, on ne peut pas le garantir. Si ça se trouve, la cabale fait un truc et puis ils sont obligés de le lancer en avance. Enfin, on peut pas prédire le futur, quoi. Mais quelque chose qui va... Même s'il y a de l'eau et de l'électricité et que... Pendant les médias, il y aura des annonces qui seront assez claires, qui vont expliquer ce qui se passe, que tout va bien et tout ça. Moi, ce que j'imagine, c'est, enfin, toute l'énergie, la nourriture, tout ça, c'est acheminé par des gens lambda qui travaillent et qu'on aura le bol de travailler comme ça. Et puis si on leur apprend que tout ça, c'était pour rien du tout, en fait, que, enfin. Il y en a qui vont dire, j'arrête tout, je ne travaille plus, j'en ai marre, quoi. Je me suis fait avoir pendant 15 ans, allez la chercher vous-même, votre eau et vos poireaux, quoi. Donc, c'est plus émotionnellement, enfin, je ne sais pas, dans les grandes villes, c'est un peu, localement, ce sera plus localement et émotionnellement qu'il faudra travailler, où les gens vont. Il faut apprendre. Et c'est quelque chose que j'en ai parlé un peu il y a 2 semaines, je crois. C'est quelque chose sur laquelle nous-mêmes on peut s'entraîner aussi, parce qu'on a aussi du travail là-dessus. C'est nos émotions réprimées, qu'est-ce qu'on en fait, comment on arrive à les exprimer, comment on arrive à échanger avec les autres en étant honnête et en respectant le libre arbitre des autres, parce que ça va jouer beaucoup aussi. Tous nos programmes vont commencer, parce qu'il y aura aussi tout un aspect, le flash d'énergie, ou sur les plans éthériques, ça va se nettoyer, où il y a beaucoup de programmes qui vont se dissoudre, mais c'est comme une désintoxication. Quand il y a une désintoxication, il peut y avoir des symptômes. Donc des fois ça peut être un peu explosif, quoi. Des fois ça se passe bien. Par exemple, il y a eu une grosse tempête à New York fin 2012, novembre-décembre 2012, où il y a eu des énormes inondations et beaucoup de dégâts. Et la réaction de la population était magnifique, je trouve, parce que les gens, il y avait énormément de solidarité dans les rues, de choses locales où les gens prenaient des initiatives pour s'entraider. Il n'y a eu aucune violence, aucun. Ça s'est très bien passé. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi la nature humaine qui, des fois, peut se réveiller, la vraie nature de qui on est vraiment, qui, dans certaines situations, peut se réveiller, et ça peut être vraiment joli, quoi. Mais c'est aussi ça, encourager peut-être des réunions, manger ensemble pour pouvoir qu'on aura tous beaucoup de choses à dire, on aura tous beaucoup d'émotions, beaucoup de choses sur lesquelles ça fait du bien de parler, quoi. Ça fait du bien de. C'est ça aussi qui pourra faire que, même inviter ses voisins, manger ensemble, c'est ça aussi qui pourra faire que les gens seront plus réagiront de façon plus positive et seront plus disponibles pour participer au changement, à la reconstruction. Enfin, ouais, vraiment, allez voir vos voisins. Ouais, ce genre de choses.
Oui, je voudrais juste rajouter un exemple pour abonder dans ton sens, parce que ça m'a rappelé quelque chose que m'a raconté une amie. J'ai une amie qui est rwandaise et qui a vécu la guerre au Rwanda, et quand elle était adolescente, et un jour on parlait des situations de crise et de panique. Alors évidemment, donc là le parallèle est très différent, parce que la guerre au Rwanda, c'est tout le contraire de ce qui va se passer là. Mais justement, je lui disais, mais comment t'as fait, comment, avec ses sœurs, avec sa mère, comment vous faisiez, ça devait être terrible. Et elle me dit, mais exactement ce que tu viens de dire, mais en fait, c'était pas comme ça du tout. Elle me dit, avec les gens étaient extrêmement solidaires, ils prenaient des risques les uns pour les autres, c'était incroyable. Et elle dit, en fait, il s'est passé des choses merveilleuses. C'est-à-dire qu'il y avait les choses terribles qu'on connaît, mais les foules n'allaient pas du tout dans les mouvements de panique. C'est pas du tout ça qui se passait. Et ça me rappelle en France, quand il y a eu un moment une grève des camionneurs, il y a déjà, je sais plus, il y a un moment qui était importante, qui avait duré. Et je me souviens que les gens s'étaient naturellement organisés en covoiturage, et il y avait plein de choses qui s'étaient passées. Bon, là, c'est une plus petite situation, mais voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est encore la cabale qui se fait l'écho du point où les gens vont partir en panique, et qui ne rapporte pas du tout les 350 autres cas où les gens sont au contraire très, très solidaires. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire.
Oui, je suis d'accord aussi. Moi, je me rappelle que quand, par exemple, le métro s'arrête, quand il y a des grèves dans le métro, les gens commencent à se parler. On est super serré dans le wagon, et il y a une atmosphère de convivialité. Pas tout le temps, mais plus souvent, il y a beaucoup plus de communication. C'est plus, on peut même plus lire son bouquin ou son journal, tellement on est serré. Mais ça fait que il y a une connexion qui se fait, et quand il y a des événements un peu brusques, rapides, tragiques, il y a une sorte de solidarité naturelle. Et je dirais que en dessous la colère, en dessous la manipulation, en dessous la fatigue, quand on enlève ces couches-là, il y a chez la plupart des gens une bonté d'âme qui est prête à aider, qui est prête à se mettre au service. Mais c'est la colère, le stress qui empêche de contacter ça. Mais quand il y a des choses qui s'arrêtent, alors c'est comme si ça faisait une percée. C'est comme si c'était l'occasion de se recontacter à nouveau avec notre vraie nature. Moi, je dis que les gens sont naturellement bons. On enlève tout ce qu'ils subissent, qui interagit avec eux. Quand on creuse un petit peu, il y a chez la plupart des gens, moi je regarde en voiture, hein, des choses très simples. Je circule, une autre voiture veut s'insérer devant moi. Soit je me dis, elle passera pas, et puis j'engage mon ego, et là, je fais en sorte qu'elle attende. Mais dès que je regarde le conducteur, la conductrice d'à côté, dès que les regards se croisent, c'est vas-y, passe. C'est instantané. Et l'énergie humaine, elle est là. Elle est dans la connexion. Mmh. Si je suis dans l'ego, elle passe pas. Si je suis dans l'humain, elle passe. Mmh. Et pour moi, c'est un plaisir même de laisser passer hein, dans ces cas-là. Mmh. Donc ça, c'est... je dirais que notre rôle, c'est d'offrir des lieux de solidarité, des lieux où on mange ensemble, puis faire des hugs à ses voisins. Je crois que moi, je ferais ça vite fait à mes voisins. En urgence, en priorité, dès que ça sera possible pour eux. Et puis, je me disais, même cette semaine, tiens, j'ai des bouteilles de vin que j'utilise absolument pas, je bois pas. Et pourquoi je les offrirais pas à mes voisins qui s'entendent pas bien avec moi, juste en leur disant, bah, tiens, je pensais à vous pour me faire pardonner parce qu'on sonne à votre interphone des fois au lieu du mien. Et je me dis, oui, c'est une bonne idée. Faire un geste désintéressé montrer qu'il y a de l'humanité, en dessous de n'importe quel conflit, il y a de l'humanité. Et que si je réponds au conflit par le conflit, ça s'envenime. Et puis si je réponds au conflit par les choses humaines, bah, ça se calme. Parce que, en vérité, tout le monde veut être heureux. Je ne connais pas une seule personne qui ne veut pas être heureux. Tout le monde veut être libre. Et donc, quand on a un discours qui s'oriente vers aimer, être aimé, donner de la liberté, bah, tout le monde dit oui, parce que intrinsèquement, on veut tout ça. Hein. Je demande dans mes groupes de centrage, je demande qui ne veut pas être libre ici. Et jamais personne ne lève la main. Après, je dis qui ne veut pas être heureux, et jamais personne ne lève la main. Je dis, bon, on est tous d'accord là-dessus, on va commencer alors. C'est intéressant de voir que c'est un point commun dans tous les humains. Et au moment de l'événement, être libre et être heureux, je pense que ça va s'exprimer encore davantage. Il pourrait y avoir quelques peurs, quelques trucs résiduels, mais nous qui sommes des groupes de soutien, ben, notre rôle, ça va être où est-ce que ça va mal et qu'est-ce qu'on peut faire. Et, ou alors, ouvrir un lieu, on met une affiche devant, sur la rue, ici, centre de soutien, ici, repas gratuit, ici, ah, ça me fait de l'émotion, là, je m'y croirais, là.
Il me semble que la peur, elle peut survenir quand un événement arrive à une personne isolée. Mais là, parce que du coup, la personne se sent pris en panique, elle est sortie du groupe, sortie du contexte, tout seul être sortie du groupe et du contexte, ça fait peur. Mais là, c'est quelque chose qui va être commun à tout le monde. Et en fait, c'est comme si l'humanité, elle a joué des jeux de rôle avec des masques dans le jeu de la cabale. Et là, l'événement, c'est le jeu qui s'enraye. Donc du coup, les masques et les déguisements, ils tombent puisque le jeu s'enraye. Et qu'est-ce qui reste ? Et je pense que c'est ce qui explique que dans les situations de guerre, comme je parlais au Rwanda ou ce que tu parlais tout à l'heure avec la tempête aux États-Unis, etc., c'est, il y a un moment donné, alors c'est pas c'est pas que ça s'est enrayé de façon générale pour l'humanité, c'est à des points, mais malgré tout, à un lieu donné et pour un moment donné, c'est ce qui se passe. Tout d'un coup, pouf, là, on quitte le costume à un moment donné parce que là, on est face au vivant, face au truc là tout de suite et on est plusieurs à vivre ça et du coup, voilà.
Oui, donc Juliette à nouveau, en fait, dans l'article de Nova Biscotti, effectivement, à un moment, il aborde clairement aussi le côté facteur humain, psychologique hein, de l'événement, à savoir que Antoine parlait de détoxination, et c'est vrai qu'elle risque, elle peut être quand même assez puissante en fonction du degré de conscience de chacun, parce qu'il y a quand même des nouvelles qui vont être faites, qui vont être vraiment des nouvelles très choquantes pour certains, pour d'autres pas trop, mais pour certains ça peut être quand même très difficile d'être confronté avec cette nouvelle réalité. Et de mon point de vue, là, peut-être la difficulté majeure de l'événement ce sera ça. Ce sera effectivement d'accompagner sur ce plan psychologique les personnes qui ne sont pas du tout préparées à cela, qui vont apprendre que pendant des années, elles ont soutenu des choses tout à fait terribles, alors qu'elles ne le soupçonnaient pas, ou en tout cas, peut-être qu'elles ne voulaient pas le voir, et là, elles vont être vraiment obligées de se prendre ça en pleine face. Donc oui, là, ça va être sport, hein, je pense. Ça va être peut-être le plus clair de notre mission, on va être certainement là-dessus. J'ai quand même assez confiance sur le plan matériel, parce que je me souviens que lors d'un rendez-vous, j'avais évoqué avec une personne dans ma vie professionnelle, une personne qui est un dirigeant de Bouygues Télécom, qui était une personne en conscience. Voilà, donc vous voyez, même dans les grandes directions, il y en a. Donc c'est des personnes de la résistance qu'évoquait Antoine, il y en a partout. Donc là, il se trouve que j'avais identifié celui-là, il y en a certainement d'autres ailleurs, mais ils avancent masqués, bien sûr, pour leur sécurité, c'est évident. Mais il y en a. Donc je pense que les grands services nécessaires aux fonctions comme l'eau, l'électricité, le gaz, ça ne devrait pas poser de problème. Il y a des personnes qui vont nous aider à bénéficier de ça, et si ça s'arrête peut-être un jour ou deux, ça ne sera pas dramatique en soi, ça n'ira certainement guère plus loin. En revanche, c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, il y a beaucoup de personnes qui vont forcément souffrir, et l'idée c'est de savoir comment on va pouvoir trouver les mots pour les accompagner lors de moments très difficiles, parce que le réveil va pour certains être très difficile.
Et puis les mouvements de libération continuent dans les nouvelles, dans le monde. Je lis aujourd'hui qu'à Hong Kong, il y a des manifestants pour une vraie démocratie, non, pour un vrai suffrage universel qui lutte. Bon, alors, ils veulent rencontrer les autorités de Pékin maintenant. Parce que là, Hong Kong a un statut spécial, et puis, bon, c'est quand même un mouvement pour une libération. Hein. Et puis ensuite, il y a la Catalogne qui veut son indépendance, et qui organise aujourd'hui un vrai faux référendum, parce qu'il n'est pas autorisé par l'Espagne, mais il y a quand même une volonté d'autogestion, une volonté d'équilibre aussi, parce qu'aujourd'hui ça semble déséquilibré les relations entre la Catalogne et le gouvernement espagnol. Mais en dessous de tout ça, il y a un désir d'autonomie, hein, je dirais, qui se, à la fois à Hong Kong, il y a d'autres pays en Amérique du Sud, et puis en Espagne. L'Espagne, avec les mouvements des 99%, là, le 15 mai, ils ont été assez actifs et ils sont allés assez loin dans la démocratie participative. Ils ont commencé vraiment des instances de réunions, d'assemblées populaires, des décisions dans les quartiers, tout ça. Je dirais qu'ils sont bien motivés là-bas pour une démocratie assez réel. Alors, il y a une nouvelle concernant les communications qui a été donnée par les Anonymous il n'y a pas très longtemps. Je suis retombé dessus aujourd'hui. Les Anonymous annoncent qu'un dispositif qui permet d'échanger des informations sans Internet, sans téléphone portable. Et au moment de l'événement, ça pourrait être assez intéressant. Ça utilise des ondes radio. Et il faut un petit récepteur. Et ce récepteur peut être lié à un ordinateur. Et donc, quelqu'un qui a le même récepteur à l'autre bout du monde ou à 200 km peut recevoir par le biais des ondes radio. Donc les ondes radio, elles ne sont pas coupées aussi facilement que les ondes téléphoniques ou Internet. Donc ça peut être une solution d'urgence. Voilà, ça coûte une trentaine d'euros le récepteur. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais c'est une manière, dans toutes les révolutions populaires, d'être connecté sans qu'on puisse interférer sur la communication.
Et où on se le procure ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais en tout cas, je sais que pendant les révolutions du printemps arabe, il a été fourni aux populations des moyens alternatifs de communiquer, de contourner les censures Internet. Et ce moyen-là, ça fait partie de ça. Donc moi, je l'ai vu aujourd'hui en regardant le site Galaxy, 109 Galaxy, comment il s'appelle
ouais.
Hein, 109galaxy.com, c'est là où il y avait l'information de Nova Biscotti, il y avait aussi une information sur les Anonymous.
Oui, c'est Nicolas. Je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de l'arrêt de la contestation à Hong Kong, parce que j'ai lu quand même un certain nombre de fois, alors même si je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça me fatigue un peu, mais sur les médias alternatifs, en général, on dit qu'il y a des gros financements des États-Unis pour soutenir une contestation, exactement comme ce qui a été fait en Ukraine, dans d'autres pays, souvent dans les printemps arabes, plus ou moins aussi. Enfin bon, a priori, ça sent de la manipulation, d'autant plus que pour moi, il y a une façon simple, en général, parce qu'aujourd'hui, comme le monde, comme on est dans un monde assez grotesque au niveau de la médiatisation, en gros, vu que les médias mainstream, ils aiment la contestation qu'il y a à Hong Kong, a priori, il faut se dire, il y a anguille sous roche. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. J'ai remarqué que ça, c'est une manière de raisonner qui, en général, fonctionne 9 fois sur 10. Parce qu'en général, après, ça se confirme qu'effectivement, il y avait anguille sous roche. Donc, vu qu'en plus, il y a plein d'informations, visiblement, qui disent que donc, Hong Kong, la contestation, il y a plein de financements des États-Unis. Bon, a priori, moi, je n'y crois pas du tout. Même si je ne dis pas que c'est bien, que je ne dis pas que le régime Hong Kong, que c'est bien. Effectivement, ils ont pas su, je crois qu'on leur impose plus ou moins leur dirigeant. Mais il faut, voilà, mais pour moi, je pense que c'est le prétexte pour des agents, pour une ingérence étrangère qui essaie de retourner le truc à son profit et pas du tout pour Hong Kong. Voilà, enfin, c'est ce que je pense personnellement. Sinon, éventuellement, je vais poser des questions à Antoine, parce que je sais pas ce que tu as entendu parler d'Anton Parks. Ouais, parce qu'il a écrit j'ai lu ses trois premiers tomes des Chroniques du Girku. Et moi, j'essaie de faire le parallèle entre ce qu'il dit et Cobra, enfin, Proper Fortune, et d'autres aussi. Hein. Sachant que tout le monde ne met pas exactement la même version, c'est toujours un peu compliqué de savoir qui a raison et tout ça. Et Anton Parks, il parle, c'est-à-dire quand il parle de Agartha, il parle pas exactement de Agartha, mais il conteste pas l'existence d'Agartha. Mais par contre, il fait la distinction entre les mondes souterrains et la Terre creuse, sur le plan physique, parce qu'après, il y a d'autres plans, il y a d'autres dimensions. Mais déjà, dans la dimension physique, pour lui, il y a la Terre creuse d'une part, et des mondes souterrains, des sortes de grosses cavernes. Voilà, et je me demandais ce qu'il en était. Est-ce que tu sais, par rapport à Cobra, qu'est-ce que sa vision, la vision dessus? Est-ce qu'il voit une Terre creuse avec un soleil intérieur et tout? Pour Agartha, est-ce qu'Agartha, ça correspond? Enfin, ça, à la limite, je pourrais me documenter, mais bon. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport au monde souterrain d'une part, par rapport à la Terre creuse d'autre part, est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que la Terre creuse, il y a un soleil intérieur? Voilà, si tu as des informations là-dessus.
Ouais. D'abord, par rapport à Hong Kong, en fait, chaque situation, il y a toujours la lumière et l'obscurité qui essaient de tourner la situation dans leur avantage. Programme 1789, il y avait une faction positive, une faction négative. Au final, Bon, c'était mitigé, quoi. C'était un peu des deux. En Égypte, récemment aussi, il y avait les forces de la lumière qui ont fait une forte poussée. Après, il y avait aussi Blackwater qui s'est ramené. Donc, au final, c'est la pyramide du Louvre à Paris, c'est pareil. C'est un symbole qui peut être utilisé pour le bien ou le mal. La lumière et l'obscurité, ils poussent chacun de leur côté pour s'approprier le truc. Donc, c'est toujours des situations, c'est la dualité, quoi. Donc, il y a toujours les deux qui jouent dans... C'est vrai qu'il y a les États-Unis qui veulent influencer le truc pour récupérer le truc pour leur plan, mais il y a aussi un truc positif qui se passe, quoi. Donc c'est toujours mixte. Et la Terre creuse, il y a toujours eu, mais il y a depuis la quarantaine, il y a aussi la Kabbale qui a été sous terre, qui n'y sont plus depuis 2013. La Terre creuse et c'était quoi les deux mots que tu disais ?
Il y a d'une part Anton Parks, il distingue deux choses bien différentes, mais qui sont sur le plan physique. C'est d'une part la Terre creuse avec un soleil intérieur, et d'autre part des mondes souterrains qui sont des cavernes, mais qui sont pas, qui sont dans la croûte en fait, mais qui sont pas le monde intérieur, quoi. Qui sont pas une sorte de continent avec des océans et avec un soleil. Pour lui, les deux existent, quoi. Et effectivement, pour lui, la Terre creuse, elle est habitée par une certaine civilisation. Il en parle. Et par contre, les mondes souterrains, ça dépend qui est, en fait. Ça varie. Et puis, effectivement, dans ses bouquins, c'est pas toujours positif. Enfin, ça dépend. Il y a des combats. Parfois, ça peut être à l'un, puis à l'autre. Donc, là, effectivement, ce que j'entends par rapport à un cobra, effectivement, ça correspond plutôt aux histoires de cavernes. Parce que, voilà, des plus ou moins profondes. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y en a une qui a été trouvée en Turquie, qui fait comme 8 étages, c'est-à-dire 100 mètres de profondeur. Hein. Le Cappadoce, je crois. Mais il y en a plein d'autres, hein, visiblement. Et je me demandais, voilà, si Cobra, s'il disait, parce qu'il me semble qu'il n'en parle pas, en fait, par rapport à, entre la Terre creuse et les cavernes, en fait, qui sont pas vraiment la Terre creuse, qui sont encore autre chose. Ouais.
Oui, pour revenir au sujet de l'événement en tant que tel, les signes aussi avant-coureurs qu'on voit émerger, donc on parlait de la partie économique financière tout à l'heure, d'un point de vue social, donc oui, bien sûr, il y a Hong Kong, il y a la Catalogne, il y a eu aussi des manifestations très puissantes à Bruxelles contre l'austérité, il y avait 100 000 personnes dans les rues, et ça a été assez violent d'après ce que j'ai vu. Il y a également à Londres des manifestations qui ont eu lieu contre le Parlement. Il faut savoir que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, en ce moment, est secouée beaucoup par les scandales de pédophilie. C'est dans le Daily Mirror. Enfin, toute la presse anglaise se relaie l'information, donc c'est absolument plus un secret. C'est pas dans la presse, en fait, ça ne remonte pas forcément au top niveau, mais pas loin. Puisqu'il y a des membres du Parlement maintenant qui sont mis en accusation, et également un ex-secrétaire d'État. Donc ça remonte quand même très haut. Hein. On est vraiment tout près de la cabale, enfin de la tête de la cabale. Donc il y avait aussi donc des personnes dans les rues pour demander la révolution, texto, avec un grand nombre de personnes qui portaient des masques d'Anonymous. Ça, c'était la semaine dernière. Donc en fait, au Mexique, il y a eu de très très importantes émeutes liées à une affaire concernant 43 étudiants qui ont été massacrés à l'instigation d'un couple qui était en fait l'ancien maire et sa femme d'une ville du Mexique dont le nom m'échappe là. Mais bref, ça, c'est un scandale absolument retentissant. Ils ont été inculpés, ils ont été arrêtés par la police il y a très peu de temps. Et c'est un scandale qui secoue largement tout le Mexique et dont le rayonnement va même au-delà du Mexique. Ça impacte toutes les relations internationales.
C'est plutôt qu'ils avaient disparu, non ? C'est pas plutôt qu'ils ont été enlevés ?
Ils ont été enlevés et exécutés.
Ah, ça, c'est nouveau, c'était beau pour
eux. Ils ont retrouvé des cendres,
c'était
sur...
Ouais.
Ah,
Voilà, donc que ce soit en Belgique, en Grande-Bretagne, au Mexique, en Catalogne, à Hong Kong, et la liste n'est certainement pas terminée, on observe quand même une convergence des phénomènes sociaux, ce qui veut bien dire que, oui, la révolution est en marche, et c'est une des composantes de... Ces soulèvements sont bien une des composantes de l'arrivée de l'événement, hein, sans aucun doute. Voilà, donc en France, je pense que tout le monde a entendu parler aussi de l'affaire Rémi Fraisse, hein, qui secoue beaucoup aussi la société française. Ça commence aussi à bouger pas mal là-dessus. Voilà, parce que je pense que dans tous les pays, les gens se rendent compte maintenant qu'ils ne sont, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'ils ne sont plus en démocratie depuis bien longtemps. Et donc, comme les pensées sont des ondes, ce niveau de conscience se propage très vite et va atteindre progressivement tous les pays, en fait. Voilà.
En fait, je ne sais pas trop l'histoire de Soleil intérieur. Je peux pas dire. Ce que je sais, c'est qu'à Agartha, ils ont... De ce que j'ai entendu de Cobra et de l'autre contact à Taipei, qu'ils ont des systèmes de chambres tachyoniques pour... ils ont plusieurs systèmes, des chambres tachyoniques qui émettent de la lumière. Ils ont des systèmes de miroirs qui reflètent le soleil de notre système solaire. Donc j'ai pas encore entendu parler de ce soleil interne, je sais pas s'il existe ou pas, je peux pas trop dire.
Moi, ce que j'ai entendu qui fait sens pour moi, c'est que au niveau de la Terre creuse, le Soleil interne, c'est dans une dimension physique, mais pas de la même physicalité que la nôtre. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément perceptible à partir de notre monde de matière. C'est une autre dimension, pour autant, c'est quand même une dimension physique. Moi, je me le représente vraiment quand on parle des différents états de l'eau. C'est comme si nous, on était à l'état de glace, et puis là, c'est à l'état de neige ou d'eau. C'est de la matière, mais ce n'est pas la même nature de matière. Donc, du coup, ce n'est pas perceptible pour nous, pour autant, c'est quand même de la matière. Et c'est comme ça, c'est de l'explication que j'ai trouvée, et pour moi, ça fait sens.
Bon, je ne sais pas encore, mais juste une idée, enfin une pensée qui me vient, c'est que c'est vrai qu'on a tous entendu qu'il y a une grosse source de chaleur au centre de la Terre. J'avais entendu que certains Agartha, justement, c'est ça qui leur permet de se chauffer, et puis... Ils utilisent cette chaleur pour la convertir en électricité aussi, si j'ai bien compris, des fois. Je pense que plus on s'en rapproche, enfin, sur le plan physique, ça risque d'être un peu invivable, d'être trop proche de ce... Mais je ne sais pas, peut-être après, sur le plan astral ou quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a certains prêtres et prêtresses d'Atlantis qui Il y a trois cercles dans Agartha. Et le cercle central, c'est des prêtres et des prêtresses d'Atlantis qui sont dans les mêmes corps depuis 25 000 ans, 26 000 ans. Donc je ne sais pas exactement sur quel plan ils sont, s'ils sont physiques ou astral. Mais en tout cas, donc ils sont au-delà du cycle de réincarnation, donc ils sont peut-être aussi capables de se rapprocher de ce centre de chaleur, je ne sais pas.
Ouais, enfin, je me suis permis de parler d'Anton Parks parce que je trouve assez incroyable. Hein. C'est assez ce qu'il écrit. Même si dans le pire des cas, c'est de la science-fiction, ben, je dis chapeau, quelle imagination féconde. Hein. Voilà, donc, je sais pas, qu'est-ce que je voulais dire. Lui il parle des d'un monde intérieur, mais vraiment sur le plan physique. Mais en fait, c'est vraiment le truc le plus difficile, le plus dur à accepter dans son œuvre, parce que ça semble incompréhensible, en fait. Enfin, comment ça pourrait fonctionner. Pour ça, ça m'interpelle, mais j'essaie d'avoir des informations là-dessus. Mmh. Voilà. C'est l'aspect le plus dur à comprendre. Quoi.
Oui, je voulais juste rajouter par rapport aux signes comme quoi il y a quelque. Dans la conscience collective, la prise de conscience de l'éventualité, de la possibilité de l'événement se fait jour. Moi, j'ai noté la vidéo de 23 minutes qui a été faite par Foster et Kimberly Gamble, qui sont donc ceux qui ont fait le film Thrive, parce qu'ils prennent tous les deux 23 minutes pour expliquer l'événement. Et pour moi, je l'ai reçu comme un signe, justement, que ça commençait vraiment à gagner les consciences, un peu plus dans les masses, dont des masses éclairées quand même. On est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui a regardé Thrive et qui suit les informations de Foster Gamble. Mais je dirais que pour moi, c'est le mainstream de l'alternative, quoi. Donc du coup, là, on était dans l'information underground, parce que je vois au début, on a démarré Prepare for Change, Cobra, bon, bah, y a, avec nous qui en parlions. Après, on a commencé à en parler de l'événement sur des sites. Il y en a qui appellent ça le grand changement, mais bon, peu importe le nom, on parle de la même chose. Et puis là, maintenant, Thrive, c'est un film qui a été traduit dans X langues, vu de partout. Et Foster Gamble dit oui, y a ça qui se passe. Donc du coup, pour moi, c'est aussi un signe, quoi. Voilà.
Alors j'ai retrouvé l'information concernant ça s'appelle AirChat, le récepteur radio. Qui permet de. C'est un projet, pour l'instant, ils cherchent un soutien financier pour le produire, le développer. Même des personnes sans ce récepteur, avec un poste radio AM/FM, peuvent se connecter à une radio pirate, et donc, au lieu d'entendre des paroles, on entendrait du code binaire et qui sera connecté à un ordinateur. Et donc, ça va émettre. De l'information et puis il y a une possibilité d'interagir grâce à des logiciels spécifiques. J'envoie un message, c'est codé, ça passe dans l'émetteur, c'est transmis et quelqu'un d'autre le reçoit sur une certaine fréquence. Enfin, techniquement, ça me paraît assez simple. C'est intéressant de voir que ça contourne complètement les systèmes traditionnels qui peuvent, eux, être paralysés. Donc, le jour où ça marche, c'est intéressant de s'y intéresser. Alors, je le montre au micro pour ceux qui sont loin. Ah ben non, ça ne marche pas. Il n'y a pas les odeurs non plus. Pas encore.
Techniquement, il y a un truc que je peux dire. Enfin, je ne sais pas si ça apporte grand-chose. Mais bon, je le dis, c'est... Si vraiment les choses sont assez chaotiques, au moment de l'événement, parce que bon, ça dépend en fait, parce qu'il peut y avoir des effets de domino, c'est-à-dire qu'un problème en entraîne un autre et qu'on n'arrive plus du tout à gérer la situation. Il y a quand même quelque chose, c'est que le chaos total, il y a quand même une entité qui a vraiment le pouvoir de juguler un peu tout ça, mais ça dépend un peu de quel côté elle est, c'est l'armée, parce que l'armée, elle a son propre système d'approvisionnement, d'énergie et de communication. Donc elle, même si le système il s'effondre complètement dans tous les sens, elle a toujours sa cohésion son fonctionnement. Donc elle peut prendre des dispositions pour décoincer, voilà. Donc ça peut être une entité assez décisive, surtout dans le cas de figure, on va dire, où vraiment il y aura des problèmes.
De ce qu'il a dit, au moment de l'événement, les ordres qui seront donnés à l'armée viendront des forces de la lumière. Donc, voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Donc, bien sûr, il y a plein de factions négatives au sein de l'armée, mais qui seront arrêtées au moment de l'événement, donc qui ne seront plus opérationnelles. Et ensuite, les ordres seront donnés... La plupart des militaires, disons, au bas de la hiérarchie, ils n'ont aucune idée des deux, ils obéissent aux ordres. Donc, que ce soit la lumière ou l'obscurité, ils obéissent de toute façon. Donc, si,
Je pense qu'il y aura certains ordres qui seront humanitaires, qui seront donnés de venir en aide, de maintenir, d'empêcher la violence. Je pense qu'ils aideront. Plus eux que la police, d'ailleurs. Que la police, c'est un peu plus corrompu.
Alors, je profite de cette réunion pour lancer un appel pour qu'on puisse faire une méditation selon le schéma que t'avait proposé Antoine. Il faut être combien au... Tu peux rappeler ça brièvement, cette méditation?
C'est une méditation qui vient des Dragons Blancs, de certains groupes positifs ésotériques au sein des Dragons Blancs en Asie. Qui est un petit peu compliqué à mettre en place, mais je pense que c'est un processus qui peut être très enrichissant et très sympa à faire. Ça divise en fait, c'est selon de la géométrie sacrée et de l'astrologie, donc on se met en trois groupes. Au centre, c'est ceux qui arrivent à maintenir l'intention, qui arrive dans une méditation à rester concentré sur à ce que leur énergie et leur pensée ne partent pas dans tous les sens. Ça, il faut au moins trois. Au milieu, c'est ceux qui ont beaucoup d'énergie à revendre et qui n'arrivent pas forcément à se concentrer sur une intention précise, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie à partager. Et eux, ils déclarent leur intention de transmettre leur énergie à ceux qui maintiennent l'intention. Donc que leur énergie soit canalisée pour l'intention du groupe. Et à l'extérieur, c'est les gardiens qui sont plus, en confrontation, qui rentrent plus dans le... Quand ils voient qu'il y a un problème, ils ne l'évitent pas, ils foncent dedans, ils sont très, très, très vigilants, observateurs et qui empêchent des énergies négatives de rentrer dans le groupe et de venir affecter les autres. Donc il faut au moins 4 gardiens, 3 au centre et puis je dirais au moins 3 énergétiques. Peut-être 2 énergétiques, ça peut passer. Mais... Voilà, c'est flexible. Enfin, dans l'absolu, il faut être plus que ça, mais ça peut être mis en place avec moins. Je trouve que c'est intéressant parce que ça invite chacun à réfléchir et à se connecter à soi-même et qui je suis, quel est mon rôle. Parce qu'on est tous différents, on a tous des talents différents. Donc ça invite chacun à réfléchir sur quel est son rôle au sein d'un groupe. Et aussi, ce qui peut être flexible, hein, ça dépend de chacun et de son libre arbitre et de ce que chacun veut. Des fois on peut être énergétique, des fois on peut être gardien, etc. Bon, de réfléchir à ça et puis aussi de se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui font d'autres choses, qui ne sont pas forcément ce que nous on fait. Mais on peut respecter ça quand même, donc de ne pas juger les autres parce qu'ils font les choses différemment, de comprendre que chacun a son rôle. Quoi. Pour moi, c'est intéressant. Après, il y a tout un aspect astrologique où les groupes s'organisent, parce qu'il y a 4 éléments, air, feu, terre, eau, et donc on s'organise en... C'est-à-dire que au centre, l'intention, c'est bien si les trois sont du même élément. Donc, par exemple, un poisson, un cancer, un scorpion, pour les trois signes d'eau. Mais c'est flexible, on fait comme on peut avec ce qu'on a, quoi. Voilà, et après, on peut se positionner en géométrie sacrée, les gardiens se mettent aux points cardinaux, ceux au centre, ils font un cercle comme ça, enfin un triangle. Je pense que c'est intéressant. Après, ça demande un peu de travail à mettre en place, mais je pense que c'est un processus qui est enrichissant.
Voilà, si on est donc au moins 10, la semaine prochaine, on pourra essayer de mettre en place cette méditation qui est plus énergétique. Si on se rapproche de l'événement, ça peut être aussi quelque chose qui cristallise un peu notre énergie de groupe. Appel à tous ceux qui écoutent les réunions, qui sont pas trop loin de Romainville, si vous voulez faire cette expérience avec nous, qu'on atteint les 10 personnes ou plus, eh ben, on pourra essayer ça dimanche prochain. On est combien hein? Le 16, alors le 16... Le 16 novembre. Et puis je sens de partager une information. Oui.
J'ai oublié de dire, en fait, c'est un truc qui peut être utilisé pour n'importe quelle méditation ou une cérémonie de groupe, pour n'importe quelle intention. Mais c'est très bien pour la méditation du dimanche parce que le but, c'est d'amplifier les effets de notre méditation. C'était pour. Ils avaient réfléchi à quelque chose pour pallier au manque de participants, si on est peu, pour pouvoir amplifier les résultats.
J'ai une question, alors peut-être que chacun fait comme il sent, mais bon, je me dis, je vais peut-être la poser, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se la posent. Pour la flamme violette, ils disent qu'il faut se protéger. Je crois pas qu'ils disent vraiment comment faire. Alors, est-ce qu'on fait comme on veut ou est-ce qu'il y a un conseil à ce sujet? Est-ce que quelqu'un a des informations à ce sujet ou est-ce que c'est complètement au feeling?
Est-ce que tu parles de la flamme violette pour Long Island?
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est moi qui ai lancé ce truc-là, et je pense que moi, j'ai pas senti énormément d'attaques, mais c'est vrai qu'il y en a qui, j'en ai senti, mais pas par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a plein qui c'est pas parce que moi j'en ai pas senti qu'il y en a d'autres qui. Mais en fait, toi avec ta propre guidance, est-ce que tu ressens pour te protéger, bon. Une technique qui classique, c'est un pilier de lumière du soleil central au centre de la Terre qui passe par toi. Tu maintiens ce pilier de lumière pendant un moment. Et puis ensuite, ça protège bien. Les dragons blancs aussi, ils conseillent autour de ce pilier de mettre des miroirs, en fait, donc qui reflètent et qui renvoient à l'expéditeur tout ce qui est. Toute attention qui n'est pas voulue. Après, la flamme violette sur toi-même, ça protège aussi bien. Moi personnellement, je fais des choses simples comme ça. Le pilier de lumière, la flamme violette, et j'appelle Isis et Ashtar, qui sont c'est les âmes jumelles, les deux, l'un de l'autre. Isis, Osiris, Ashtar, Ishtar, c'est les mêmes.
Tu dis Isis, Osiris?
Isis et Osiris. Osiris, c'est Ashtar, en fait. C'est le même être, en fait.
Alors, je lis Anton Parks. Alors, dans Anton Parks, en fait, dans son œuvre, les flammes jumelles, c'est Isis et Osiris. Et puis, il y a... il y a un truc aussi, mais c'est pas net. Alors, peut-être ça va s'éclaircir plus tard par rapport à Ashtar. Mais... Voilà, c'est... En gros, c'est... Elle aimerait bien être avec. Elle pense être la flamme jumelle de Osiris, mais ne l'est pas, en fait. C'est un peu ça qui semble apparaître. Mm-hmm. Ashtar.
Ashtar pense être la flamme jumelle.
Enfin, dans le bouquin, dans l'œuvre de Anton Parks, il y a Isis et Osiris qui sont visiblement, effectivement, des âmes. Enfin, qui sont clairement décrits comme étant des âmes jumelles. Mais Ashtar, enfin, elle n'a pas trop ce nom-là, elle a plutôt comme nom Nephthys ou. Inanna, enfin il y a plusieurs noms. Alors Ashtar, c'est un des noms qui existe.
Et
voilà, pardon, Ishtar. Ah, tu parlais de Ishtar ou de Ashtar?
Ishtar et Ashtar, c'est Isis et Osiris.
Ashtar, tu sais.
Ah oui, c'est possible. Ah. Donc Ishtar, ça voudrait dire que Ashtar serait en fait Osiris, du coup. C'est ça? Ok, oui, ça c'est pas en contradiction avec. Oui, ça pourrait être ça, parce que comme il parle pas de Ashtar, rien n'a dit que plus tard, enfin qu'il, parce que en fait son la même entité, elle a des noms différents. Elle a, déjà, même à une même époque, déjà, elle a plusieurs noms. Puis après, au fur et à mesure de l'évolution des temps, elle peut se réincarner, elle a d'autres noms. Donc là, par exemple, Osiris, c'est Horus, c'est Baal, c'est Lucifer, c'est la sphère, le porteur de lumière. Et c'est possible qu'après, peut-être après, il va l'appeler autrement. Après, ça dépend de ce qu'il perçoit aussi, parce que moi, je ne sais pas. On verra ce qu'il. Il a pas là, il connaît pas tout. Enfin, dans l'hypothèse où il connaît les choses, il est censé écrire juste ce qu'il reçoit après.
Justement, dans l'interview que j'ai fait cette semaine avec Cobra, c'est le premier sujet dont on parlait, si tu veux regarder. Ashtar, on en parle souvent dans les groupes d'OVNI depuis le XXe siècle. Avec cette photo, enfin, ce dessin de lui assez connu, où il a les cheveux longs blonds. Et Ashtar, de ce que Cobra disait, Ashtar, c'est Osiris. Isis, elle peut s'appeler Ishtar ou Astara. C'est le même être, si tu veux, qui ont fait leur ascension juste avant Atlantis, qui viennent de Sirius, et qui ont. En fait. Ensuite, après la quarantaine, si tu veux, ils ont été très connus parce qu'ils ont été très actifs pendant Atlantis. Et puis ensuite, après la quarantaine, donc il y avait une espèce d'amnésie globale. Bon, il y a certains groupes positifs qui ont maintenu leur mémoire. Et en même temps, eux, ils ont été assez actifs pour essayer d'aider, de contacter certains... d'aider la surface de la planète. Donc, il y a beaucoup de civilisations qui ont parlé d'eux sous différents noms. Vénus, Aphrodite, c'est Isis. Donc voilà, ils sont. Mais ce qu'il y a, c'est que comme ils ont après la quarantaine, en majorité, ils n'ont pas été présents ici. C'est des histoires qui se passent de bouche à oreille, donc qui perdent leur nature, surtout quand on. Plus elle se passe de génération en génération, plus l'histoire est dénaturée. Surtout en Grèce ancienne, voilà, il y a plein de trucs qui correspondent plus, quoi. Mais de ce que Cobra disait, c'est Isis, Osiris et Ashtar, Ishtar.
J'ai un dernier sujet. Je suis guidé à parler d'un guérisseur péruvien, chaman, qui s'appelle Kirael, K-I-R-A-E-L. Ça fait longtemps que j'entends parler de lui, et il me semble que c'est en relation avec l'évolution spirituelle de l'humanité. C'est pour ça que j'en parle dans la réunion de PFC. Alors... quelques phrases que je lis sur une annonce qui est sur Être Plus. Au-delà des soins du corps et du mental, au-delà du réveil individuel, sa ligne de travail a pour objectif d'augmenter le niveau de conscience du plus grand nombre de personnes. L'ange Kirael est une présence divine qui est devenue énergie, laquelle accomplit sa mission de protéger cette planète Terre. Il aide l'être humain à se préparer dans son évolution spirituelle. Carlos a la capacité et la structure corporelle requise pour être un canal, un portail par lequel passe une énergie créatrice qui ne lui appartient pas. Cette énergie a sa propre intelligence et guide Carlos à agir différemment sur chaque personne, aux endroits nécessaires pour elle. L'énergie de Kirael est énergie créatrice. Carlos est l'opérateur terrestre par lequel se fait ce contact d'âme à âme. Il va aider l'âme de chacun à la reconnexion et à l'ascension de ceux qui sont préparés. Donc, ce qui est, il est sur Paris du 17 novembre au 30 novembre. Les consultations sont en donation libre. On donne ce qu'on peut et ce qu'on veut. Y a pas, et l'argent qu'on donne sert à organiser ses voyages et à louer des salles uniquement. Voilà, kirael.es, kirael.es, si vous voulez. Donc moi, je me suis inscrit pour une séance le lundi 17. Ça fait longtemps, il fait aussi des conférences et il semble que ça soit assez énergétique. Donc peut-être fait-il partie du plan de réveil de l'humanité, puisque c'est Carlos, l'être humain relié à une énergie divine Kirael, l'énergie angélique. Hein, donc, c'est un proposant enregistré sur le site Être Plus. Quand on regarde l'annuaire des professionnels, il y a Carlos Kirael qui est dedans. Voilà, moi ça résonne bien pour moi, même ça fait longtemps que j'en entends parler.
On peut dire où on en est pour la chambre tachyonique ? Je te pose la question.
Alors, où on en est pour la chambre tachyonique, c'est pour moi, c'est stagnant depuis un moment. Ça fait peut-être 3 semaines que le dernier versement a eu lieu. On en est autour de 35%. Donc, voilà, peut-être on aura notre chambre tachyonique avec l'événement, avant la chambre tachyonique dans la matière. Mais pour l'instant, soit on passe au financement collaboratif, pour la somme qui reste à financer, soit on trouve un moyen de réimpulser ça davantage. C'est l'état actuel.
Alors, qu'est-ce qu'on décide alors ?
Je ne sais pas, moi je pose la question. Hein.
Je la pose aussi.
Voilà, nous posons la question. Qu'est-ce qu'on décide ? Ben, s'il n'y a pas de moyen d'impulser d'autres dons, pourquoi ne pas essayer le collaboratif, le financement collaboratif ? Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein, on aura essayé. Ouais. Il faut préparer le dossier, quoi. Il faut préparer la communication.
Donc, on le met sur KissKissBankBank, c'est ça ?
Oui, par exemple, oui.
Pour le moment, je ressens moins l'élan que cet été.
On verra ça après l'événement.
Je sais pas, bah, disons que, bon, moi, mais on n'est pas obligé d'enregistrer tout ça. Hein, c'est...
Ah ben, hein? C'était ta question, elle était posée, mais pas ouvert. Hein.
Ouais, c'est vrai.
On en parle offline alors, hors antenne. Ok, nous vous tiendrons au courant des résultats de cette discussion plus tard. Chers amis de PFC, bonne semaine et à la semaine prochaine.